Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on reçoit un invité spécial, Samuel Baudry de Mindblow, pour parler de plein de choses. So, right. Bonne écoute.
Let's go.
Donc avant de commencer, on n'est pas... Absolument, c'est Sam qui le fait, hein?
Ouais,
c'est... L'autre Sam. Donc on n'est pas des conseillers financiers, rien de ce qu'on va dire doit être interprété comme un conseil financier. Faites vos propres recherches, le trading c'est risqué, grand risque, potentiel perte ou whatever, bref, ok.
Les résultats de passé ne garantissent pas les résultats futurs.
Merci. Sam, il est comme trop rodé. Donc bienvenue.
Merci,
bienvenue.
Merci beaucoup de me recevoir, super apprécié les gars, puis... Moi, je pensais être juste toi puis moi, puis là, j'arrive, puis il y a 10 000 gars, man.
Ouais. C'est parce qu'absolument, on mastermind pendant le podcast sur les questions qu'on veut poser. Mais écoute, si tu veux prendre un moment pour te présenter.
Fait que je suis Samuel Baudry. Tu sais, moi, en partant, quand tu m'as invité, je suis comme, je suis pas un gars de crypto tant que ça. J'ai déjà été là-dedans pendant plusieurs années. Là, en ce moment, ben, j'ai ma boisson argentée ici. J'ai plusieurs business dans le domaine du fitness. Fait que je suis un. Serial entrepreneur, comme on dit, j'ai plusieurs entreprises, je suis vraiment un gars de business depuis longtemps. Puis la crypto, ça ne m'avait pas intéressé. J'ai été dans plein de belles pertes, de beaux gains, de plein d'affaires. Fait que je pense que ça va être cool de jouer de ça aujourd'hui. Puis je pense que ça peut allumer certains peut-être aussi à ne pas faire les erreurs débiles que j'ai fait dans le passé.
Je pense qu'on a tous fait des erreurs.
C'est quoi les business que tu as actuellement?
Moi, je suis un gars de fitness. Moi, je suis parti entraîneur à la base. Fait que j'ai un gym à Mirabel, j'ai une compagnie de coaching en ligne. J'ai une compagnie de suppléments qui est maintenant rendue comme jumelée avec Mindblow directement. J'ai de l'immobilier aussi. Nice. J'ai plusieurs investissements à gauche à droite. Fait que j'ai plusieurs e-commerce en ligne aussi. Je suis vraiment un multitask qui a touché à bien des choses, qui a eu bien des business qui n'ont pas marché, qui a eu bien des business. J'étais un gars de web. Fait que j'étais un gars qui a fait beaucoup de e-commerce, dropshipping, Amazon. Mm-hmm. Fait que je suis là-dedans encore aujourd'hui. Là, à l'âge que j'ai avoir 30 ans, j'ai mes deux enfants. Je commence à être dans ma phase, on se comprend bien. Ouais. Je suis dans ma phase en ce moment où je commence à être plus équilibré, puis que je prends des meilleures décisions, puis que je vends des business que je suis un peu moins attaché ou j'ai moins de temps. Puis de l'autre côté, mais je prends des décisions qui sont plus bonnes pour moi, moins de all-in, 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 puis plus apprendre à respirer un peu aussi. Là.
C'est good.
Ouais. C'est
good. C'est nice. Puis tu disais, dans le fond, t'as commencé dans le fitness. Est-ce que tu veux partager, tu sais, vraiment comme ton parcours du début jusqu'à,
ouais, mais
jusqu'à
quand,
maintenant?
Quand j'étais jeune, on habitait dans les bois, nous autres. Puis là, mes amis habitaient excessivement loin. Fait que tout ce que j'ai appris à ce moment-là, ça allait être sur l'ordinateur. Fait que j'ai fait des sites dans ce temps-là. Je faisais des forums. J'avais des forums avec des Français de France là-bas. Puis c'est con, mais ça m'a tellement aidé aujourd'hui parce que je suis devenu entraîneur à 18 ans environ. Je mangeais le gym, je capotais, j'aimais ça. Puis ben, j'ai été parmi les premiers au Québec dans le temps de Mark Fitch, je sais pas si vous connaissez un peu, il a commencé ses affaires. Ben, j'étais pas longtemps en arrière de lui à me faire un site web, à faire des trucs comme ça, parce que j'étais... Mon background que j'avais eu de chez mes parents m'a aidé à créer mon site moi-même puis à faire toutes ces affaires-là. Fait que j'étais comme dans les premiers au Québec à faire du coaching en ligne un petit peu à ce moment-là. Fait que ça m'a fait un nom. J'étais un gars qui a fait beaucoup de théâtre aussi, fait que de m'exprimer devant une caméra ou whatever, j'ai toujours eu de la facilité aussi. Pour moi, c'était pas compliqué. Fait que de montrer mes connaissances, mes workouts, mes trucs, ça fait que je suis quand même devenu assez populaire en ligne, puis ça fait que ma plateforme a assez développé pour être capable de coacher du monde en ligne. Puis éventuellement, mettre fil en aiguille, ben c'est là que plus de cash flow, on a ouvert un gym, j'ai engagé des employés, puis aujourd'hui, ben je coach plus pantoute depuis environ 4 ans. Fait que je suis encore comme... le visage de l'entreprise, mais techniquement, j'ai une dizaine de coachs qui travaillent pour moi, puis moi, mais je fais juste la gestion puis le truc de tout ça. Fait que je suis prêt de parler de mille et une différentes phases de ma vie à ce moment-là. J'ai eu trop de business en même temps, j'ai eu trop d'affaires, j'ai été trop un gars de gym, j'ai été trop un gars de business, j'ai été trop un gars de party.
Ouais.
Là, comme je dis, je suis comme rendu dans la phase où est-ce que j'ai été capable de prendre des petites miettes de chaque chose, puis d'être le gars plus équilibré qui est capable de... d'être plus un pied à terre un peu. Avant, je dansais toujours à gauche, à droite. Là, je commence à être un petit peu mieux.
Bon, avec cette business, on parle de energy drink, boisson énergisante.
Ouais.
Souvent, on veut aller chercher un produit pour pouvoir, dans notre domaine, c'est performer. Comment est-ce que je peux performer à la fréquence, à l'énergie la plus élevée? Puis, en fait, comment est-ce que tu as réussi à pouvoir faire ça quand tu es en train d'avoir un rythme en étant un père, en étant un entrepreneur, un investisseur?
Moi, à la base, j'ai toujours été un excessif. Fait que quand je travaillais comme un débile mental dans ma phase de business, j'étais sur la dérale tout le temps. Fait que moi, j'étais un gars qui n'est pas prescrit, qui n'a pas de TDAH et rien, mais j'étais sur la dérale à côté pour être capable d'être juste plus. Fait que j'étais un excessif, tu sais. Puis quand j'ai découvert, dans le fond, il y a des nootropiques là-dedans, fait que c'est des ingrédients pour augmenter les performances cognitives, mais qui sont légales, c'est pas un médicament, c'est naturel. J'avais découvert les nootropiques en ligne parce que là, la dérale commençait à me faire des effets secondaires. Je commençais à perdre des cheveux, je commençais à avoir moins faim, je commençais à être socialement awkward. J'avais des amis qui étaient comme, t'es trop in the zone, tu me parles plus, whatever. Fait que quand j'ai découvert les nootropiques, il n'y avait rien de ça ici. Je devais en importer des États-Unis. Okay. Puis des nootropiques, ben, tu sais, il y a plein d'ingrédients là-dedans, tu peux en prendre un par un, ou tu peux faire comme ça un blend, t'en mets plusieurs, puis là, ben, t'as plein d'effets positifs de tout ça. La caféine, dans le fond, c'est un nootropique. Mais quand t'en prends plusieurs d'autres façons qui sont pas nécessairement des stimulants, tu vas chercher des effets des fois pendant plusieurs heures de concentration, focus, bonne humeur, dopamine. Fait que quand j'ai commencé à trouver ça là-bas, j'ai fait crime, je ressens quasiment le même vibe que l'adéral, sans les effets secondaires de crime, j'ai pas faim, je suis pas dedans, ou au contraire, je suis trop dans mon écran. Ou... Fait que j'ai tellement aimé ça que là, j'en cherchais au Canada, il y en avait pas. Je me suis dit, pourquoi pas créer nous-mêmes un produit ici? Fait qu'en 2021, début 2021, on a lancé, ça s'appelait Dopamax à l'époque, c'était Mindblow, mais en pot, avec un supplément. Puis là, le monde était comme, Dopa, c'est la dope, c'était Dopamine Max, whatever.
Ouais.
Fait qu'on avait un super produit, les gens commençaient à acheter ça en ligne, ont trippé, c'était cool. Puis finalement, Santé Canada nous ont tapé ses doigts et ont dit, on a un médicament qui a le même genre de nom, fait que tu dois changer de nom. Okay. Puis là, dans un brainstorm d'idées, c'est venu de même. On a trouvé ça en 2 minutes. Mind blow. J'ai dit, crime, c'est donc mais bon. Blow my mind. On dirait que ça avait rapport à ce qu'on faisait. Fait qu'on a changé le nom du supplément. Puis l'année dernière, on s'est fait approcher pour créer la version Ready to Drink. Fait que depuis un an, on est sur le projet. Depuis un an et demi maintenant. Puis en janvier, on a lancé ça en 2 saveurs de ce format-là. Puis là, on est sur une lancée depuis.
C'est où que les gens peuvent trouver ça? Est-ce que c'est sur un site web ou sinon on peut le trouver?
Ah, vas-y, on ouvre la canette.
On va goûter. Là.
Sur mindblowenergy.com, les gens peuvent se le procurer en caisse de.
Cheers. Merci.
Mais ça vous autres? Fait que sur mindblowenergy.com, les gens peuvent commander des packs. On est dans 450 points de vente en ce moment au Québec seulement. Fait qu'on a une map interactive sur le site web que les gens peuvent trouver. Mais là, on a des gros plans. Comment tu peux dire ça? On grossit très rapidement en ce moment. On a 2 nouveaux formats, les plus petites canettes qui sortent là en ce moment, des nouvelles saveurs. Fait qu'à l'automne, on a confiance qu'on va être dans pratiquement toutes les épiceries au Québec.
Nice.
Puis après ça, ben, pour Noël, etc., Canada. Puis on a déjà en ce moment de l'importation qui est en cours au moment où on se parle aux États-Unis pour commencer à distribuer là-bas. On a fait des canettes juste américaines. Fait que tu sais, tout est en déroulement. C'est un magnifique start-up. Mais si on a la même discussion dans un an, je pense qu'on va être ailleurs.
Honnêtement, comme parce que moi, avant, je buvais beaucoup d'energy drinks. Puis je bois aussi beaucoup de café.
Ouais.
Tout ce qui me réveille. Puis j'adore le goût. Comme la saveur est vraiment bonne.
Je suis content que t'aimes. Tu me diras tantôt pour les effets comment tu trouves. Moi, ça fait 3-4 ans que je consomme des nootropiques. C'est le genre d'affaire qu'on dit souvent aux jeunes, des petits disclaimers. Comme la caféine, tu devrais faire des on and off. Fait que tu sais, moi, les week-ends, je prends rien, pas de stimulant, pas de café, rien, parce que tes récepteurs, à un moment donné, quand tu les brûles, à tout en prendre du café, c'est pour ça que tu prends un café à 9h le soir, puis tu peux être couché. C'est pas normal. Ouais. Fait que moi, toute la semaine, lundi au vendredi, je prends ça. Je suis toujours en congé avec les kids le week-end, fait que j'en prends pas. Puis le lundi, ça re-kick, puis comme, même après 4-5 ans, j'ai encore autant d'effets, puis comme, ça fesse. Ça
si quelqu'un, on va dire, ici, connaît vraiment pas.
Ouais.
Dont moi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui s'est habitué au café, au sucre. Bon, je prends 2-3 lattés par jour. Et là, tu viens me parler de ce produit. C'est quoi la différence entre ce que le café produit dans notre système puis ce qu'une boisson énergisante, déjà, je vois zéro sucre, zéro ci et ça. Genre, c'est quoi la différence en effet dans notre système?
Fait qu'autant ton café qu'une boisson énergisante conventionnelle, tu vas avoir un boost de caféine, donc il va avoir des vitamines, des trucs pour un petit peu de bienfait pour la santé, mais le reste, techniquement, c'est de la caféine. Tu as un boost rapide. La caféine, c'est un des stimulants à action les plus rapides, mais souvent après ça, pas longtemps après, tu as un crash, ça va redescendre assez rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui tolère pas trop de caféine rapidement, puis pourtant, on est compétitif, on est 180 mg comme les autres. Mais juste la caféine, moi, je fais up, down rapidement. Là-dedans, les nootropiques, il y en a qui marchent en symbiose ensemble. Fait que quand tu mélanges comme ça, comme j'ai dit, premièrement, tu as du focus, tu t'as de la bonne humeur parce que ça va jouer sur ta sérotonine et ta dopamine, tes hormones. T'as plus de facilité à retenir l'information, plus de mémoire. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a un ingrédient qui s'appelle la théacrine. Quand tu mixes ça avec la caféine, tu diminues les effets négatifs de la caféine, comme le petit... Des fois, la patate qui bouge un petit peu plus, le cœur qui palpite ou whatever, la perte d'appétit, ces affaires-là. Mais en mixant ça ensemble, la durée de vie de la caféine vient de faire, bam, 4 à 6 heures. Fait qu'au lieu d'avoir juste un up, down, puis hey, il me faut un autre latte. Mais avec ça, souvent, pendant 4, 6 heures, 8 heures des fois, comme prends pas ça à 8 heures le soir, puis tu sais, c'est plate. Mais prends-les pas à 8 heures le soir parce que tu auras de la misère à dormir.
Honnêtement, bon, presque à tous les jours, j'ai comme l'anxiété juste après avoir bu un café.
Mais c'est ce qui est cool avec ça, c'est que t'as pas ça avec ça. Okay, c'est ce que les gens nous disent, qui sont comme, mon Dieu, il y a 180 mg, mon Dieu, c'est beaucoup de caféine, puis on voulait juste être compétitif aux autres pour avoir un kick rapide, mais techniquement, je pourrais prendre ça sans caféine, ce serait plus subtil, mais j'aurais quand même les effets du reste aussi. Fait qu'on voulait de quoi. Ça reste un domaine de la boisson énergisante. Peut-être qu'un jour, je vais en faire une version sans caféine. Mais on voulait de quoi qui kick rapidement pour que les gens fassent comme « Oh, damn! » Mais t'as pas tous ces effets secondaires-là qui te dérangent juste ben de la caféine ou quelque chose. Fait que c'est ce qui est vraiment cool. Puis on a vraiment un beau dosage de sucralose aussi qui fait que, oui, il y a du sucralose, sorry. Non, il y a pas de sucre. Mais tu te sens pas gonflé, t'as pas d'inflammation. Moi, encore une affaire, mes compétiteurs, quand j'en prends, souvent, je me sens bloté, mais raide.
Ouais.
On a travaillé la formule pour être sûr que ce soit le genre d'affaire qui se passe pas avec ça aussi.
Puis,
nice.
Puis t'avais dit, genre, ça aide avec la mémoire, right?
Ouais.
So, comment ce drink, ça aide avec la mémoire? Ça fait quoi exactement?
C'est vraiment les ingrédients qui vont ouvrir des pathways, qui vont jouer sur ton neurotransmetteur. Fait que toutes des choses comme la caféine ouvre un pathway pour l'énergie, mais il y en a d'autres qui vont aller dans des zones de ton cerveau. Puis comme je disais, sérotonine, c'est pour la bonne humeur. Dopamine, c'est motivation. Mais t'as d'autres zones de ton cerveau qui vont être stimulées, qu'il y en a qui vont juste... Je vais pas dire que c'est comme le film Limitless, mais comme les gens souvent comparent les nootropiques à ça, parce que c'est un peu la même comparaison qu'on peut donner. Tu ouvres des pathways que c'est comme si tu vas avoir 0.02% de ton cerveau qui va travailler davantage sur telle zone. Ben, chaque petit pourcentage paraît beaucoup parce qu'on n'est pas habitué de sortir de ces zones-là. Fait que, en toute franchise, pour les gens qui connaissent pas les nootropiques, quand tu l'essayes, tu sens une différence. Tu le sens.
Ouais.
Il y a quelques personnes, petit disclaimer encore une fois, qui ont peut-être des hypersensibilités ou des choses, ou d'autres, des le contraire d'une hypersensibilité, ou est-ce que eux, c'est peut-être pas le dosage qui va leur faire une grosse différence. Eux, ce serait un autre nootropique. Mais en général, on a fait une formulation pour que la majorité des gens chez qui on a testé à la base, notre étude de marché, que ça ait des effets. Fait que ça va arriver une fois sur 1000, quelqu'un va me dire « Hey, j'ai pas senti grand-chose. » Ben, peut-être aussi qu'il a été un crackhead quand il était jeune ou whatever. Mais en général, j'ai personne qui me dit qu'ils n'ont pas échangé leur autre boisson, leur café ou whatever par Mindblow. On a des chantiers de construction complets que les gars font que ça. Ils font des grosses commandes ensemble pour pouvoir tout le monde... C'est vraiment nice. Parce que ce qui est cool, vendre un produit, c'est nice. Mais quand tu vends un produit qu'en plus tu sais qu'il est bon, tu sais, moi je suis biaisé, c'est mon produit. Mais quand tu as autant des bons feedbacks, c'est quand même vraiment cool.
Ouais, c'est sûr que ça fait une grosse différence là. Ouais. Moi, je t'ai connu dans le temps de Dopamax justement, puis je l'avais essayé, puis tu sais, je me souviens dans le début quand je me suis lancé dans le trading, je prenais du Adderall moi avec comme il faut que j'étudie là, 8 heures d'études. Fait que je prenais du Adderall, puis quand que j'ai juste comme arrêté d'en prendre, ça a pas duré aussi longtemps que toi, ça peut avoir l'air d'avoir duré. Mais j'avais pris le Dopamax, puis j'avais vu cette différence au niveau du focus. Fait que pour vrai, ça...
Moi, j'aime vraiment ça.
Ouais.
Puis là, le fait que tu étais en plus en crypto puis un peu investi dans le monde de blockchain, est-ce que tu vois une façon qu'on peut maintenant intégrer le monde de boissons énergisantes, le monde de santé avec peut-être ton modèle de business, peut-être la blockchain ou...
Quand JP m'a écrit, c'est sûr que moi, c'était, tu sais, c'est... Nous, on les appelle nos personas, tu sais, nous, on vise beaucoup les étudiants, les gamers, tu sais, je veux dire, je peux donner ça à n'importe qui, mais c'est sûr que si je vais avoir des catégories de personnes, mais c'est sûr que... Les traders, surtout que c'est de plus en plus populaire, mais c'est une catégorie de gens qu'on veut targeter parce qu'ils ne veulent pas longtemps devant les moniteurs, devant les écrans, pendant des longues heures. Tu sais, comme si moi je le fais pour mes business devant mon écran pendant 8 heures de temps, vous autres, c'est la même chose probablement. Fait que je veux dire, c'est le genre de produit qui peut vraiment aider au final. C'est sûr que nous, un jour, ben, au minimum, on veut accepter la crypto sur le site web. Tu sais, on veut au moins être à jour dans tout ce qui est crypto pour ce qui est de la business et ces affaires-là. Après, ben, tu sais, moi personnellement, je suis les développements puis les choses. Fait que je suis quelqu'un qui est technologiquement ouvert. Fait que je veux dire, toutes les possibilités vont être là. Mmh. Mais si on parle juste pour le trader conventionnel qui a besoin d'un plus, lâche on a des râles, essaye même l'eau, puis en général, on a du bon feedback pour ça aussi.
Ouais. Puis c'est intéressant parce que justement, c'était une des questions que je voulais te poser. T'sais, est-ce que vous prévoyez justement accepter de la crypto sur le site web comme moyen de paiement?
Ça reste quelque chose que je veux dire. C'est là pour rester, puis que moi, ça m'a toujours intéressé. Est-ce que c'est des risques et pas des risques pour une entreprise? Je veux dire, je pense que oui. Quand je vois n'importe quoi, l'est en même temps, mais autant qu'on voit comment que l'argent, tu sais, papier, comment ça se passe en ce moment, tout ça va digital de plus en plus. Fait que je pense que le plus on peut se diversifier, premièrement, le mieux c'est intéressant pour n'importe quel business. On est dans une société qui est tellement ouverte maintenant sur plein d'affaires qu'en tant que business, ben, si on peut être ouvert sur les façons de payer ou autre, ben, go for it. Puis que ce soit n'importe quoi, je veux dire, oui, on veut probablement offrir plus que juste un paiement en Bitcoin aussi. On veut être ouvert là-dessus aussi. Tu sais, le but, c'est d'offrir la chance aux gens de pouvoir avoir Mindblow. Je ne sais pas où est-ce qu'on va être dans 20 ans niveau crypto. De ce que je vois, ça va continuer d'avancer. Puis il y a des gens à un moment donné qui vont vouloir juste payer en crypto. Fait que moi, tant que c'est de l'argent,
à Marlin... Oui, c'est même plus que juste une façon d'échanger avec une devise ou une façon de mode de paiement. On parle littéralement de la technologie ou de la structure derrière une entreprise. On peut littéralement en créer... des NFT, des premiers Mindblow, puis que lorsque l'entreprise va avoir une évaluation de 20 milliards de dollars, et je vous le souhaite, c'est que j'ai littéralement le NFT original de Mindblow lorsqu'ils ont sorti en 2022 à Montréal.
Je sais que tout se développe tellement rapidement qu'en ce moment, comme je te dis, on est ultra ouvert à tout ce genre d'affaires-là, puis comme on le voit quand le gars de Twitter... ça part un NFT avec son premier tweet, puis ça se vend pour des millions, je veux dire. C'est sûr qu'on est ouvert à ce genre d'affaires-là, puis que je pense que c'est intéressant de le faire, ou au minimum, c'est pas quelque chose de perdu. C'est quelque chose que, tu sais, ça peut gagner à essayer. Puis oui, on a évidemment beaucoup d'ambition à grossir l'entreprise vraiment de façon exponentielle. On est quand même, je veux dire, nouveau. C'est ce qui est cool aussi. On est trendy. On est quelque chose qui, en ce moment, on a peut-être... une dizaine de compétiteurs aux États-Unis, puis on a zéro compétiteur ici. Je veux dire, on a des compétiteurs parce que c'est la niche Energy Drink, mais on a personne qui a des nootropiques ici. Fait que c'est cool, c'est nouveau, puis je pense de pouvoir le présenter comme ça aussi, d'être différent, d'être ouvert technologiquement ou autre. Je pense que ça peut juste être bénéfique pour nous. Puis ben on est ouvert à la critique aussi, à cette affaire-là. Je veux dire, je suis quelqu'un qui est habitué à ça, fait qu'en même temps... Nous, le plus qu'on peut offrir de possibilités ou de choses pour notre clientèle et pour notre futur, on va le faire à 100%.
Nice. Puis c'est quand même drôle que tu parlais de NFT parce qu'il me semble que j'avais vu que t'as... Vas-y, on est là pour ça, parle-en.
Mes belles pertes. Non, j'ai eu une passe vraiment NFT dernièrement, tu sais, l'année dernière, dans le fond, où est-ce que c'était très, très fort. Je m'étais renseigné beaucoup sur le sujet. J'étais parti un petit peu là-dessus où est-ce que, tu sais, la crypto, j'ai manqué, tu sais, on en parlera après si vous voulez, j'ai manqué des bons bateaux, j'ai perdu bien de l'argent aussi. Fait que là, j'étais comme, bon, le principe communautaire m'intéressait beaucoup au niveau du NFT. Fait que c'était pas nécessairement juste pour les trends ou les choses, c'est quand je croyais en une communauté ou quand je voyais le vibe d'une communauté puis que tu disais, crime, ça va lever à cause de la vibe de cette personne-là, ben j'investissais. Fait que, tu sais, j'ai fait une couple de bons moves, j'ai fait une couple de très mauvais moves, c'est que... J'ai acheté, j'ai keepé, puis j'en ai racheté, puis finalement le gars vient de vendre l'ensemble de sa collection NFT à un autre investisseur qui voulait participer, puis là ça fait juste crash. Fait que, en sommaire, j'ai un pas si pire portfolio diversifié d'NFT, mais qui en sommaire vaut même pas la peine que j'aille ouvrir mon OpenSea, puis que je suis comme, j'irai voir d'ici quelques années probablement. Fait que, je te dirais qu'avec tout ce qui s'est passé, puis les développements de business, puis tout, j'ai vraiment mis ça on hold dernièrement, que c'était comme, on le garde, ça me sert à anyway de juste le vendre pour le perdre. Puis je suis quelqu'un quand même qui, une fois que je sors de l'argent de mes poches, pour moi, il est perdu. Fait que ça, c'est une bonne mentalité que j'ai de ce côté-là. En même temps, moi, je suis du genre à, il est parti, il est plus là. Fait que si j'ai dépensé 5 000, le 5 000, il est perdu. Quand même que je pourrais en récupérer 2 500 dessus, ben si je le récupère, ça sera pas je récupère, c'est cette journée-là, j'ai fait 2 500. J'aime bien avoir cette mentalité-là de perte puis de gain plutôt que de « Ah, j'ai réussi à avoir tel montant. » Sauf que pour l'instant, j'ai des bonnes pertes au niveau des NFT. On verra dans le futur si ça peut se régler. Là, en ce moment, je sais comment que c'est parti les NFT. Ça a été beaucoup, je veux dire, mimisé. Ça a été mis comme un meme beaucoup. Ça a été, tu sais, je sens qu'on a rapidement perdu l'essence de tout ça. Avec après ça, la rapidité de sortie de tout ce qui est AI, on dirait que tout ce qui est Metaverse a été mis de côté aussi. Fait que j'avais investi dans plusieurs choses Metaverse aussi. Fait que toutes des choses qui sont on hold que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus trendy à ce moment-là, puis que tout le monde en parlait, que là, ça a l'air vraiment sur la glace pour mettre place à d'autres choses. Je sais pas où est-ce que ça va changer au cours des prochains mois, prochaines années. Fait qu'on verra si j'ai perdu ou si je regagne.
La beauté des choses, on en parle vraiment, vraiment souvent, c'est que quand c'est trendy, c'est pas peut-être en tant qu'investisseur le meilleur moment d'y rentrer. Puis quand c'est le moins trendy, qu'on croit que c'est mis sur glace et que ça va plus nécessairement réapparaître, c'est là où c'est le temps d'investir parce que tu vois les prix. Genre, en ce moment, je suis en train de regarder genre des projets que tu compares à où ça a été juste il y a au début de l'année. Il y a un potentiel de genre 100-200% de croissance. On parle même pas du all-time high. C'est juste où on était au début de l'année. Et personne n'en parle. Tout le monde pense que c'est... Ah, il y a des gens qui pensent que c'est un scam. Il y a des gens qui pensent que ça va plus... Ah, il y a le Bitcoin halving qui arrive l'année prochaine. Ça va... Aucune façon que ça va remonter. Mais qu'est-ce que tu penses que les institutions font, les banques font? Qu'est-ce que tu penses que les whales font? Je veux dire, même dans une entreprise, quand tu es un investisseur dans des entreprises, c'était quand le meilleur moment peut-être à investir dans certaines entreprises japonaises? C'était peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, parce que tout le monde pense que ah, ça ne vaut pas la joie de s'investir dans l'économie japonaise, ils ont eu les bombes atomiques, etc. Ouais. Mais les gens les plus riches en ce moment au Japon, c'est ceux qui se sont investis dans les entreprises durant ce moment-là. Donc,
ce que j'ai trouvé le plus difficile au niveau des NFT, c'est... Tu sais, autant que j'aimais le principe communautaire, autant que d'un autre côté, tu sais, j'aimais des gens que je connais très proches qui ont réussi à me faire acheter à leur projet, puis c'était des gros projets, tu sais, que... Puis que finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de la façade, puis que c'était beaucoup de blabla, puis que, tu sais, parce que c'est ça un petit peu aussi un NFT, ça peut être une espèce de... C'est un petit glimpse de qu'est-ce qui s'en vient, parce que lorsque tu l'as, tu vas avoir droit à ça quand ça va sortir. Mais c'est facile pour eux après ça de récolter tout ça, puis de faire comment ça sort dans un mois, puis finalement on a un délai, un développeur, et ça. Fait que je peux dire que je me suis fait avoir de ce côté-là par quelqu'un que je connais très bien, puis que je suis comme. Je suis un peu déçu, tu sais. Puis je pense pas que c'était leur intention, mais je pense que leur succès a été rapide, puis qu'après ça on a vu le Discord, c'était juste du hate, puis du hate, puis du hate, puis ça l'est encore aujourd'hui, parce que le projet. A jamais ressorti, où est-ce que ça devait sortir. Fait que je suis comme, quand tu fais des promesses comme ça, qui sont évidemment des promesses en l'air, on signe rien au final, on achète un NFT, là, je veux dire. Fait que je l'ai vu, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu aussi, où est-ce que tu penses investir dans quelque chose de, ah, tu sais, eux, je les connais un petit peu plus, ah, je vois leur following, je vois leur truc, je sens que d'être parmi les premiers, ça va probablement lever par la suite ou quelque chose, puis en plus, il y a un bon projet par la suite qui s'en vient, mais que tu te rends compte qu'après, c'est facile de juste fermer le rideau, puis de, tu sais, les affaires à Logan Paul, ces affaires, tous des trucs qui sont arrivés aussi, que c'est comme, peu importe comment que t'es gros, peu importe comment que t'es connu, il y a des projets qui peuvent se planter, puis c'est pas toujours nécessairement leur faute ou whatever, mais en même temps, nous, l'investisseur qui est là-dedans, qu'on essaye de rentrer dans ces projets-là early le plus possible aussi, puis que, tu sais, on pre-order, on y va dans les premiers, les early birds, puis après là, tu regardes ça, puis t'es comme, ouais, tu sais, je me sens scam. C'est peut-être pas l'objectif, mais je me sens scam d'avoir adhéré à ça. En plus, pour t'encourager, mais tu sais, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois. Tu m'as envoyé ton lien, puis c'était comme, let's go, puis je comprends comme n'importe quel business, je pourrais investir dans une business sur le bord de la rue, puis que demain, ça crash aussi. Fait que c'est un peu la même chose, puis qu'il faut pas le prendre trop personnel. Il y en a trop qui le prennent personnel, encore une fois. Mais c'est quand même plate quand tu vois ça, parce qu'au moins, quand t'investis dans une business, il y a une business. Là, t'as de quoi de digital qui promet quelque chose qui va suivre, puis quand la suite ne vient jamais, c'est dur de pas se sentir...
Ouais, je comprends 100% ce que tu veux dire, puis c'est là où nous, on en parle souvent, et tu vois, avant, on sautait sur n'importe quel autre projet. Je me souviens, le premier projet que je me suis investi, c'était Storica qui a fait un ICO en 2016, puis je sais même pas que l'argent est rendu à combien de sous. Puis c'est là où on en parle qu'en tant qu'investisseur, quand tu arrives à un certain niveau dans ton expérience, dans tes connaissances, dans ton capital aussi que tu génères, quand tu mises un peu plus que 100€ ou 100$, ben tu commences à vouloir prendre moins de risques. Et c'est là où... Une des suggestions qu'on donne aux gens, c'est déjà regarder les top projets. Genre, est-ce qu'ils ont passé le market cap de 1 milliard de dollars?
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester, mais déjà, si tu as un market cap d'au-dessus de 1 milliard de dollars, tu as passé la première phase de tous les autres 7, 8, 9 000 projets, ou même 9 000, 900 projets. Et deuxième aussi, c'est quelque chose de très important, ce que tu avais dit, c'est analyser le roadmap de ce projet et si les fondateurs ont respecté le roadmap. Ouais. Parce que s'ils donnent des promesses que, ah ouais, voilà, notre si et ça va sortir en mars, finalement, ça sort en juillet. La deuxième étape du roadmap, on dit que ça sort en juillet, ça sort en décembre. La confiance et la crédibilité commencent à shaker un peu.
Ouais.
Et...
Bah, quelque chose que je vais ajouter aussi, c'est comme, on dirait c'est comme une personne, quelqu'un qui rentre dans l'entrepreneuriat puis il demande des fonds pour investir en lui. Mais si la personne vient juste de commencer, moi, je serais un peu plus sceptique.
Ouais.
Mais si la personne, je sais, même s'il y a eu des hauts et des bas, il a toujours resté consistant et persistant. Mais ça, c'est le genre de personne que j'ai envie d'investir dedans. So, pour moi, ça... C'est...
Mais surtout que, tu sais, quand c'est un projet que tu investis une business... Ouais. De la présentation du projet. Tu sais, t'as beaucoup d'analyses à faire, mais comme ça reste un projet. Là, t'investis beaucoup envers des personnes.
Yeah.
On peut acheter des likes, on peut acheter des abonnés. Tu sais, on se base beaucoup sur les social media. On regarde leur compte. Tu sais, moi, ça a été ça un peu aussi. Tu sais, j'avais beau connaître la personne. Tu sais, je regarde le compte, je regarde les trucs. Puis si tu fais pas une analyse vraiment poussée de quelque chose, n'importe qui peut avoir 100 000 demain sur Instagram en allant acheter ou whatever, puis que comme, tu sais, c'est ce qu'ils font, ils boostent leur Discord en pété. Tu sais, t'as l'impression que tu manques le bateau quand tu fais pas ça. Fait que tu te dis comme, go, là, c'est, faut que j'y aille là. Il y a déjà 3 000 personnes sur le Discord, ils ont juste 5 000 pre-order, ils ont 5 000 early bird que tu peux profiter de tel prix. Fait que comme, c'est ça le scarcity qu'il y avait beaucoup dans les NFT, qu'en ce moment, ça s'est un petit peu essoufflé, mais... que c'était ça la manière pour eux de faire des projets qui étaient comme de 2 semaines de temps à juste générer du gros cash puis à pratiquement disparaître ou à juste faire comme « Ah, guys, on travaille fort pour la suite, mais c'est pas encore là, ça s'en vient » ou comment on a fait la V2. « Ah, vous pouvez hold votre NFT dans notre portefeuille puis vous allez avoir tel coin qui vient, mais que ton coin ne vaut pas de la merde tout le temps. » Puis c'est beaucoup ça qui a été mon expérience avec les NFT. J'en ai acheté que j'ai été vraiment déçu parce que justement, j'avais investi des bons montants, que c'était vraiment un super projet, très artistique, très créatif. C'était Zombie quelque chose. Je retrouve les noms, là, je les ai quelque part dans mon sel. C'était vraiment du beau art. Puis le gars, c'était un artiste. Son père avait été un gars controversé dans le passé. Anyway, c'était super intéressant. Puis ce qui est plate, c'est qu'il a juste vendu. Fait que. Il a vendu un investisseur qui essaie de hold le projet. Après, que le monde s'en fout. Le monde était là pour lui. C'est son vibe qui était là. C'est ses trucs qui étaient là. Fait que la valeur en ce moment a juste drop. Fait que ça aussi, c'est plate. Parce que c'est comme n'importe quel business, encore une fois. Mais encore une fois, la business, tu vends demain ton McDonald's que tu as quelqu'un d'autre, ça reste du McDonald's. Là, tu achètes la personne. Le art, des fois, il est dégueulasse ou whatever. Oui, des fois, c'est un projet, mais lui, c'était vraiment une communauté qui, oui, avait des avantages. Puis, à un moment donné, on parlait de jeux dans le metaverse, puis les affaires. Fait que comme il y avait de l'intérêt pour une certaine type de personne, moi, j'étais vraiment là en profil investisseur qui était... Le gars, il a un vibe, le gars, il est capable de monter une communauté. Je sais que ça lève, puis ça levait. Puis après ça, bam, il a fait un move pour lui, puis ça, c'est super pour lui. Pour les investisseurs, c'est poche, puis comme... C'est pas tant comparable à un monde de business parce que même si quelqu'un vend quand il est rendu à son top comme ça, ça vaudrait un jour des milliards comme tu dis, puis je la vends, il y a encore ça. Les gens ont acheté ça. Viens pas me dire que t'achètes ça à cause de moi. Peut-être qu'en ce moment, tu le fais parce que tu me connais puis tu vas l'acheter. Mais si t'en rachètes et ça, tu m'encourages pas à un moment donné. T'aimes le produit.
Ouais.
NFT, c'est un peu différent. Fait que c'était ça un peu mon expérience avec les NFT qui, pour l'instant, est encore sur la glace. Puis même chose pour mes cryptos. Moi, j'ai jamais été vraiment un day trader. Comme j'ai eu de l'intérêt pour ça. Mais à un moment donné, j'ai compris que je suis trop occupé, j'ai trop de choses. Puis j'ai commencé à accepter. Puis je suis un gars qui construit des projets. Je suis vraiment là-dedans. Là, à l'âge que j'ai, je commence à être dans la construction de projets puis à trouver des gens pour continuer de la build-up. Comme tu sais, j'aime créer, mais après ça, je sens que j'ai mon top. Je dis pas que j'aurais pas voulu faire du day trading ou du trading d'un point de vue financier. Mais je pense que ça c'était pas dans mon profil. J'étais un gars sentimental, j'étais un gars émotif. Fait que j'étais un gars qui l'a vu rapidement. J'ai des belles histoires de Dogecoin à vous conter, si vous voulez.
On en a déjà compté quelques-uns sur les autres épisodes.
J'avais acheté dans le début, juste avant tout, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que j'avais mis 5 000 ou 10 000. 10 000. Puis le lendemain, j'étais à 40 000. Puis j'étais comme, je hold. Parce que ça faisait juste ça, puis après ça, bam, 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 là ça descend, là je suis rendu à 8, puis à 7, puis à 6, Puis là, comme un tata, j'ai vendu. J'ai dit, c'est un pump and dump. Fait que j'ai dit, j'ai vendu, j'ai gardé mon 6000. Fait que, puis je pense que c'est une semaine après, peut-être un petit peu plus, mais j'aurais eu 1.4 million d'avoir gardé mon 10 000, là, d'avoir juste pas touché. J'aurais eu 1.4 million quand ça a eu son top. Fait que j'étais vraiment un bon temps, mais j'étais l'investisseur émotif. Puis encore là, je veux dire, c'est dur de pas faire le contrat quand tout le monde vend ça juste pour être un meme puis une joke. Puis c'est comme, bon, c'est son moment de gloire. Là. Profite, Sam, apprends, sors ton gain, au pire, garde ton... Sors ton 30 000 de gain, garde ton 10 000. Mais j'étais en manque d'expérience, j'étais trop émotif. Fait que c'est là que j'ai compris que ce genre d'affaire-là, c'était pas pour moi. Mais encore là, j'étais pas un gars qui évaluait les charts. Puis j'étais juste... J'ai mis ça. C'est trending sur Reddit. Je suivais Reddit, là, quasiment là, update aux deux secondes. Comme comment ça se passe, tout ça. Puis le lendemain, quand ça commençait à dump, là, j'étais comme...
Si admettons... Ben, la prochaine fois, on va dire tu investis dans des projets ou chez une personne ou dans une business.
Ouais.
Cette fois-ci, qu'est-ce que tu ferais pour mieux calculer tes risques?
C'est dur à dire parce qu'encore une fois, c'est tellement un investissement qui est stupide. Parce que tu te dis, j'ai 100% fait ça parce que tout le monde en parlait. Puis que en fait, c'était même pas le temps maximal où tout le monde en parlait. Et là, on n'était même pas encore là-dedans ni rien. J'étais juste avant, là. Fait que je me souviens pas à l'époque qu'est-ce qui s'est passé pour que là, les gens parlent d'investir pour ça. Mais aujourd'hui, je serais remis à la même situation. Est-ce que je le verrais différemment? Je le sais pas parce que c'était encore un meme. Fait que même Shiba, après cette affaire-là, j'ai encore investi puis là, j'ai fait du profit. Mais j'ai rapidement retiré puis j'ai encore pas fait le maximum que j'aurais pu retoucher parce que je suis trop dans l'émotion encore une fois. Je suis un investisseur qui est... Moi, j'ai besoin d'immobilier puis d'affaires qui est physique puis que comment, en tout cas, qui perd, je le répare puis de... Tu sais? Fait que... Est-ce que je pourrais le voir différemment? Je pourrais donner des conseils en disant « faites pas ce que j'ai fait ». Mais est-ce que je pourrais le voir différemment? Je pense pas parce que c'est pas une valeur sûre comme aurait été Ethereum, Bitcoin, whatever, que je suis comme « il y a de quoi qui se passe, ben let's go » puis je le quitte puis je le sais. Parce que même encore aujourd'hui, ça a eu une montée à cause de la viralité. Mais ça, c'est l'exemple parfait d'une communauté, de gens qui sont juste comme « fuck it, on rend ça big puis on lâche pas ». Puis je pense qu'ils vont encore avoir des gros moments pour autant Shiba que Dodge. Juste parce que c'est quelque chose de communautaire. Bitcoin, Ethereum, c'est un statement. Les autres, c'est vraiment comme c'est une communauté qui est derrière ça. Il est comme, je m'en fous. C'est un meme. I don't care. On rend ça big. Un peu comme les gens sont mis pour, j'allais dire Best Buy, mais pour GameStop, ces affaires-là. Ouais. Fait que tu sais, comme c'est la même chose. C'est une communauté. Puis dans l'ère qu'on est en ce moment des réseaux sociaux, il n'y a rien de plus fort que ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, les NFT, c'est autant nice. C'est une communauté, puis j'ai toujours été un gars de communauté. Comme j'ai dit, j'étais jeune, t'as des forums, après c'est mes business, j'étais un gars de réseaux sociaux. Fait que pour moi, c'est le parfait médium. Pour un coin, demain, il y en a un nouveau qui sort, il y en a un nouveau qui sort un meme à tous les jours. Le poop coin, le shit coin, whatever, c'est juste ça tout le temps. Fait que t'es comme, est-ce que il va pump puis rester comme Dodge et Shiba? Ça pourrait arriver. Mais je serais pas la personne, je pense, qui va le faire parce que je suis trop émotif dans là-dedans, puis je suis pas assez dans l'analyse à ce moment-là, puis c'est imprévisible. Même si tu analyserais, c'est pas comme Bitcoin ou whatever que tu peux lire, c'est une communauté qui raid d'un coup, puis qu'après, ben comme, let's go Elon, is the king, on garde ça, puis fait c'est ta question réalité, est super, mais je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses parce que c'est tellement imprévisible.
La réalité, c'est que c'est pas juste les lorsque tu investis dans, ben, investis lorsque tu vas plutôt risqué dans des memes et des projets qui sont un peu avec moins de fondation que tu vas avoir ce côté-là. Mais c'est plus le côté financier qu'il faut identifier avant. Et c'est quelque chose que je prêche sur tous mes lives. Je dis, guys, si vous voulez combler aux émotions, si vous voulez enlever ce côté émotionnel, vous devez identifier quoi? C'est un plan d'action, un plan financier comme un plan business, comme si tu viens aujourd'hui avec Mindblow devant une banque pour demander un prêt de 10 millions, ils vont te demander des questions. Ouais. C'est quoi, c'est où, c'est comment, ça produit combien, ça coûte combien, puis qu'est-ce que tu vas faire avec notre argent? Et moi, si je viens regarder ton plan de trading ou ton plan d'investissement, tu devrais avoir le même plan. Ouais. Et en fait, tu vas pouvoir éviter beaucoup de ces émotions si déjà, dès le départ, tu as un plan financier voulant dire que j'embarque maintenant 10 000 dans ce projet, peu importe ce qui se passe, rendu à tel niveau, j'enlève 70% de, ouais. de tout, je laisse 30%. Pourquoi? Parce que tu as vu, tu avais fait 400% de, ou 300% de ton investissement. Mais la réalité des choses, c'est que ça nous arrivait à tous au début. En tant que, pour les premiers investissements, quand on voit ça à 400%, on est comme, ouais, let's go, on s'en va pour 700, on s'en va pour 800, on s'en va pour 1000, puis on retire pas jusqu'à temps que ça redescende. Ben oui. Heureusement, si tu retires en profit, tant mieux. Mais souvent, les gens aussi, surtout dans ces choses de mime, ne retirent pas en profit, ils retirent en perte. C'est là où tu dois te dire, dès que j'atteins un 100% ou 200%, je sors la moitié, je sors mon investissement, je ouais. sors 70%. Protège. Puis tu prends le 30%, whatever happens, happens. Ouais. Alors là, un jour, si ton 10 000 est devenu, on va dire pas 1 million, mais il est devenu 400 000, tant mieux.
Ouais.
Mais tu sais quoi? T'as enlevé le risque de la table. T'as enlevé les émotions de la table aussi.
Parce que même là encore, parce j'aurais sorti 20 000, profits. J'aurais fait 50%, j'aurais quand même fait 200%. J'aurais voilà. encore eu une énorme gain, une journée à 10 000. Et, comme,
et il faut le faire parce ça, que là. Dans le moment, si tu le fais pas avant de rentrer dans le trade ou dans l'investissement, et ça c'est dans n'importe quoi, ouais. investissement en business, investissement en immobilier, investissement en crypto, investissement dans n'importe quoi. Si tu identifies pas ce point où tu sors, cette point de sortie, tu vas jamais sortir.
Ouais.
Jusqu'à temps que c'est trop tard.
De toute façon, pour vrai, là, les émotions, c'est vraiment la partie la plus difficile. Puis ouais. en plus, toi, t'es vraiment proche de toi-même et de tes émotions parce que t'es capable de l'affirmer. Mais c'est la partie qu'on va devoir travailler
non-stop.
Pour le restant de notre ouais. vie. Tout le monde, il pense que, OK, à un moment donné, t'atteins un niveau d'expertise, même dans le trading. Ah, t'es plus émotionnel. Fuck that, là, t'es encore émotionnel. T'es encore émotionnel, c'est juste ta capacité à gérer puis à te contrôler sur tes émotions puis à reconnaître comme certains signaux qui sont envoyés. Puis c'est ça qui est le plus difficile. Là.
Ouais.
Même sur un plan business, tu peux avoir une opportunité qui se présente devant toi. T'sais, exemple, comme tu t'es fait approcher pour les canettes, ben, je suis sûr que tu as quand même pris le temps d'analyser la situation puis pas de faire comme OK, let's go, on y va.
Ben, c'est comme là, tu sais, mettons que ça marche bien, puis l'année prochaine, quelqu'un m'approche pour l'acheter, mais t'es comme cool, c'est cool. Tu vas offrir 1 million, tu dis, un million, one shot, c'est cool, mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans? Tu sais, il y a beaucoup d'affaires à penser tout le temps, mais tu sais, moi, ce qui est le plus difficile surtout, c'est que j'ai une nonchalance. Souvent, tu sais, je suis un gars ultra économe, full placement, full, comme je disais, investissement, tu sais, sécuritaire, etc. Immobilier, un peu plus de risque, whatever. Mais le reste, je suis un genre de... J'ai tellement pas de dépenses dans la vie parce que je suis quelqu'un d'économe que quand ça arrive comme ça, je suis comme j'ai dit, c'est, je le mets ou je le lose. C'est pas plus grave que ça. Là. Pas parce que je suis tellement riche que... C'est zéro ma mentalité. C'est juste comme, je le mets, je le perds. T'sais, c'est comme, il est gone. Tant mieux si j'en fais du profit. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a trop de nonchalance là-dedans qui est comme... Comme là, en ce moment, mes investissements crypto. En ce moment, c'est juste... Depuis les drops et trucs, tout a été old, mais en ce moment, c'est juste comme c'est là, puis je sais pas regardé depuis des mois en ce moment. Fait que je suis juste comme.
Ça, c'est une bonne solution aussi pour ne pas stresser puis vendre à un super bas, tu le laisses de côté et je le touche pas.
Et on se revoit en 2024.
On se revoit en 2024.
Fait que pour l'instant, c'est comme ça. Là, faut que je fasse tout ce qui est transfert, Binance, puis tout. Faut que je sois un peu moins nonchalant puis que je fasse ce qu'il y a à faire. Mais je suis là-dedans en ce moment qui était juste comme. Ça a été une bonne phase pour me concentrer sur autre chose. Puis comme j'ai dit, je suis pas un day trader. Pour moi, c'est pas compliqué de le faire. Mais c'est sûr que c'est plate quand tu regardes tes chiffres. Puis comme, ça fait quoi déjà un an? Début de l'année passée, mi-année passée, que c'était vraiment fort. Puis que j'étais comme, tu sais, tous mes investissements étaient forts. Puis c'était cool. Puis là, tout d'un coup, t'es comme, ah. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, va falloir que j'apprenne à prendre des profits des fois aussi. Tu sais, je suis beaucoup sur le hold parce que c'est dans ma situation. C'est ce qui est idéal pour moi. Mais même si tu hold, il faut que tu analyses un peu et tu es comme, ah cool, il y a 20% qui est défait de profit là, on peut retirer quelque chose parce que tu fais pas des placements juste pour le fun, tu sais.
100%.
True.
Si tu as un conseil à donner avec toutes les hauts et les bas à travers que tu as passé au niveau d'investissement, au niveau d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont en train d'écouter en ce moment?
C'est une bonne question. En tant que tel, je veux dire, je pense que c'est un bon exemple de quoi pas faire. Je pense qu'honnêtement, je veux dire, je suis le gars émotionnel, fait que je suis pas là des traders. En partant, je pense que, comme tu as dit tantôt, d'avoir plus d'analyse, plus de temps, je pense que c'est ce qui est idéal dans n'importe quelle situation. Même pour la business, je suis un peu nonchalant aussi. Je suis quelqu'un qui... Je me suis toujours cru avoir aucune créativité parce que je suis pas un musicien, je suis pas un cible, mais ma créativité est dans la création d'entreprise. Je suis vraiment un gars qui, comme, j'ai tout le temps des idées de projets puis d'affaires, puis j'en mange, mais il me manque d'heures dans une journée, puis j'ai mes enfants, puis mes trucs, puis je pourrais faire un e-commerce à tous les jours si je voudrais, mais j'ai pas ce temps-là, puis j'aime ça. Fait que je dois apprendre davantage à mieux analyser autant les risques que les bénéfices, que comme pour moi, ça a été ça mon struggle pendant plusieurs années, où est-ce que je dois les pour et les contre, les biens, les moins biens, c'est vraiment ça. Fait que je pense que pour n'importe quelle personne, autant en business qu'en crypto, qu'en NFT, whatever, faut vraiment prendre le temps d'analyser roadmap, s'assurer que les personnes derrière ça, c'est des personnes fiables. Puis comme j'ai dit, j'ai des personnes que je pensais qu'ils l'étaient, puis finalement, encore une fois, c'est pas compteux, c'est peut-être pas leur volonté, mais ça a chié pareil. Fait que, il y a beaucoup de recherches puis de choses à faire. Puis oui, c'est certain que de mon côté, avec mes économies puis tout, ben j'avais plus de lousse. Fait que je suis pas nécessairement la personne qui pouvait, ah, je vais mettre 5 piastres là. Puis tu sais, j'avais, je pense, plus de capital libre pour le faire, puis c'était cool. Mais en même temps, ça augmente tes risques considérablement. Mm-hmm. J'aurais pu faire des plus petites affaires puis dire cool, j'ai mis 100 piastres puis j'en ai fait 400, cool. De mon côté, c'était quand même des gros chiffres aussi. Fait que c'était trop de la nonchalance. Fait que je pense vraiment que de prendre ça en considération, de ne pas être nonchalant, c'est votre argent, c'est important. Plus d'analyse de risque. Je pense que dans n'importe quoi, c'est super important. Puis comme j'ai dit, même en business, je suis le même genre de personne aussi qu'à un moment donné, je perds de l'argent, je perds de l'argent. Oui, je me retrousse toujours les manches pour replacer ça. Mais je dois apprendre à être un petit peu plus comme serré sur mes choses, puis comme un peu plus à jour tout le temps. Ça, c'est mes struggles du quotidien.
Yeah. J'ai une question. Je suis curieux. Toi, maintenant, ça fait combien de temps que tu es en business?
Ça fait enfin, quasiment 10 ans.
10 ans, OK.
J'ai 30 ans, déjà l'année prochaine, moi. J'ai 29. Okay. Depuis 20 ans, mais ça fait 9 ans.
Ça fait depuis 9 ans, OK.
Ouais.
Puis, ça serait quoi la raison principale pourquoi tu as décidé de devenir un serial entrepreneur à la place d'avoir une job? Puis toi, tu as l'air d'un gars qui est capable de bien s'exprimer. Je suis sûr que tu serais capable d'avoir une job à 150, à 200 000.
Ouais, 100%.
Je suis sûr, 100% facilement. Mais pourquoi t'as décidé le chemin de l'entrepreneuriat à la place?
J'ai jamais vu autre chose. En toute franchise, là, depuis que je suis jeune, peut-être que les forums et les affaires, tu sais, à ce moment-là, on dirait que j'aimais faire ces choses-là. T'sais, je faisais des sites web avec mes frères, on dirait que j'en mangeais. Puis moi, j'allais étudier au cégep en comptabilité gestion parce que je voulais une business. Ouais. Je savais même pas de quoi. T'sais, quand j'étais jeune, j'avais le rêve d'être vétérinaire, des affaires-là, puis après ça a parti. Puis au secondaire, j'ai tout le temps vu comptabilité-gestion. J'étais un gars de maths fortes. Les maths, j'en mangeais, puis j'étais excellent, puis j'avais aucune difficulté à l'école. Puis après ça, j'arrive au cégep, party boy, ça brosse tout le temps. Je coule 6 cours sur 8, démotivé. J'ai jamais échoué de ma vie. J'échoue pour la première fois de ma vie. Impossible. Je lance au cégep, moi, je suis pas un gars qui échoue. Aujourd'hui, j'ai plus le même tort, j'échoue régulièrement. Mais je suis un gars qui doit l'apprendre à la dure. Moi, j'ai toujours eu dû manger des coups pour apprendre quelque chose. Okay. Tu me dirais.
on dirait que tu es en train de littéralement parler de qui je suis.
Tu me dirais, Sam, mais si tu prends de l'affaire, je vais faire fuck it, je laisse ça, puis je vais me planter, puis je suis un gars comme ça. Fait que, après ça, l'entraînement était ma seule vocation que j'aimais. C'est la seule affaire qui me donnait du plaisir. Je flippais des œufs, j'étais un cuisinier. Mm. Mon seul affaire que j'avais hâte, c'est d'aller m'entraîner. Puis là, ben, j'ai tout mixé ensemble. Je me suis dit, je vais devenir entraîneur, je suis capable de faire des sites, je vais faire un site. Tout a comme été ensemble. Puis ben, c'est après ça que je me suis dit, je suis pas capable de faire juste une chose. Fait qu'en même temps d'avoir ça, j'avais un dropshipping, puis j'en avais un autre, puis je le fermais lui, puis j'en faisais un autre. Puis j'ai toujours eu mille et une affaires en même temps. Puis là, c'est depuis que j'ai mes enfants, depuis 3 ans, que j'ai sélectionné des choses, puis que j'en ai vendu, puis que je suis comme. Je suis encore dans des processus en ce moment de me débarrasser de certaines business ou d'affaires parce que je suis. C'est mal dit de débarrasser, mais je suis quand même là-dedans parce que je suis trop occupé pour ce que je suis capable de donner maintenant. Puis je suis plus sage, fait que je suis capable de mettre mon focus sur les bonnes choses. Puis quand il y en a que je sens que je suis plus la bonne personne pour ça, je pense qu'il est temps que d'autres personnes puissent s'en occuper ou whatever. Ou comme, tu sais, je dois apprendre à plus déléguer. Je suis encore dans ces processus-là aussi. Mais. J'ai jamais vu autre chose dans toute franchise. Puis j'ai eu des passes difficiles, j'ai eu des trucs, j'ai fait de la prison quand j'étais jeune, j'ai eu mille et une affaires qui ont été difficiles, mais j'ai jamais vu autre chose que d'avoir des business. Puis peut-être que je me planterais demain, je me vois pas aller travailler pour quelqu'un en toute franchise, j'ai toujours été un gars qui a de la difficulté avec l'autorité aussi. Est-ce que je le ferais 100%? J'ai déjà une famille, jamais... Je vais être dans le besoin pour mes enfants, je vais toujours les mettre en priorité. Fait que si demain il faut que je retourne travailler quelque part parce que j'ai échoué, ça va arriver. Ça va pas arriver, mais ça pourrait arriver. Mais je sens aussi que pendant que je ferais ça, je relancerais de quoi en ligne. Puis tu sais, je suis trop à jour dans tout ça, puis je suis trop commis dans toutes ces affaires-là pour dire que demain, ben, je vais être un travailleur pour quelqu'un. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas des lundis matins où est-ce que je suis pas tanné puis que je suis pas. Il me semble que ce serait bien juste pas avoir à me soucier de décision puis à faire qu'est-ce qu'on me dit de faire, mais ça durerait 2 heures puis je serais plus capable.
Ouais, c'est
fait
vrai.
Que c'est ma personnalité, définitivement.
Puis toi, comme, tu vois, évidemment, t'as passé à travers des hauts et des bas et évidemment, t'as appris de tes propres erreurs, mais est-ce que t'as eu des mentors dans ton cheminement?
Pas assez. En toute franchise, encore une fois, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que là, j'en accepte davantage puis que dans le passé, j'aurais dû en prendre, mais que je l'ai pas faite. Fait que mon site web a pris plus de temps à faire que n'importe quoi parce que j'ai voulu le faire par moi-même. J'étais un autodidacte qui regarde mille et un tutoriels. Puis aujourd'hui, c'est cool parce que peu importe qu'est-ce qui arrive, je peux le faire. Je peux faire la comptabilité, je peux faire le site web, je peux faire les commandes, je peux faire le service à la clientèle, je peux faire la vente, je peux... Je suis pas le meilleur dans tout, mais je suis bon dans tout. Fait que c'est très, très cool. Mais en même temps, est-ce que j'ai perdu du temps? Définitivement. Est-ce que j'aurais pu être meilleur dans d'autres choses parce que j'ai pas pris de mentor ou de rien? Définitivement aussi. Fait que, encore une fois, ça va dans ma personnalité qu'il y avait de la difficulté avec l'autorité. Puis oh, j'avais de la difficulté à me faire dire quoi faire. Fait que j'avais toujours de la misère à me dire, j'ai toujours été le mouton noir. Fait que tout le monde allait vers le même gars pour se faire coacher à devenir coach. Puis moi, j'allais à droite parce que je voulais être différent. Puis c'est pas nécessairement cool de dire ça, mais c'est ma personnalité. J'avais besoin d'être différent. Puis de où ça vient, je sais pas. J'ai eu une période de rejet au secondaire. Est-ce que je suis devenu rebelle à ce moment-là? Puis j'ai eu besoin de faire ça. Aucune idée. Mais on dirait que j'ai toujours eu besoin d'être différent des autres de ce côté-là. Fait que aujourd'hui, je me laisse plus aller dans tout ça où est-ce que j'ai un peu plus. J'ai pas encore de mentor officiel, mais tu sais, comme là, l'immobilier m'intéresse énormément, je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un pour m'aider là-dedans parce que c'est pas dans mon expertise, puis j'ai pas le temps d'en faire mon expertise. Je sais pas que ça va peut-être me donner mon principal dans le futur un jour. Là, je me laisse plus aller. Je veux pas, je suis dans un milieu qui est plus vieux aussi maintenant, agroalimentaire, fait que j'ai des mentors sans être des mentors, fait que j'ai des gens, mes distributeurs, mes fournisseurs, mais ça, tu sais, je prends tout ce que je peux prendre partout. Éventuellement, elle va peut-être me permettre un peu plus, mais j'ai encore de la difficulté avec la personne qui va voir Grant Cardone ou whatever. Ou j'ai encore de la difficulté à avoir juste comme la même personne qui dit la même chose à tout le monde, puis tu l'avales tout le temps. Puis ça a tout le temps l'air donc facile de dire faut que tu fasses 800$ par jour pour avoir tel montant par année. Puis je suis comme c'est cool que tu dises ça, mais c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Fait que j'ai de la misère avec le blabla qui régurgite à tout le monde. Comme je te dis, je suis un gars qui marche souvent de l'autre côté que tous les autres suivent. Je suis moins mouton un peu.
Ouais.
Mais j'essaie de me laisser un peu plus aller dans cette direction-là quand même parce que je sens que j'ai besoin d'apprendre de d'autres personnes aussi puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup meilleurs que moi dans beaucoup de choses. J'ai jamais été le meilleur dans rien. Comme j'ai dit, j'ai souvent été bon dans la majorité des choses que je faisais. Fait que là, j'ai envie d'avoir un peu plus d'expertise. Fait que là, je vais aller chez des gens qui ont une expertise pour m'aider à continuer d'avancer.
C'est vrai. Nice.
Ouais.
Merci beaucoup.
Ouais.
Merci. Puis on se voit sur le prochain épisode.
Yes.
Cheers, guys.
Cheers.
Oh, puis by the way, on va mettre le lien dans la description.
That's it,
let's go.
Yes, peace. Sir.